SBS Radio. Au sommaire de ce journal du mardi 25 juin, la tension monte entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump a annoncé la mise en place de nouvelles sanctions visant les dirigeants du régime de Téhéran. En Australie, plus de 150 dirigeants religieux appellent le Premier ministre Scott Morrison à faire de la lutte contre le changement climatique sa priorité numéro 1. Et en France, c'est actuellement la canicule. Il fait tellement chaud que le ministre de l'Éducation nationale a annoncé le report des épreuves du brevet des collèges. La tension monte entre Washington et Téhéran. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé la mise en place de nouvelles sanctions visant le guide suprême de la révolution islamique, Ali Khamenei, ainsi que de nombreux autres membres haut placés du régime iranien. Des sanctions qui sont contenues dans un ordre exécutif qu'a signé Donald Trump et qui, selon son ministre des Finances, Steven Mnuchin, va se traduire par le gel de plusieurs milliards de dollars d'avoirs iraniens. Il s'agit là d'une mesure de rétorsion suite à la destruction d'un drone américain par l'Iran, selon Donald Trump. Le même Donald Trump estime que l'ayatollah Ali Khamenei est responsable de ce qu'il appelle le comportement hostile du régime au Moyen-Orient. On l'écoute.
Les mesures prises aujourd'hui font suite à une série d'actions agressives du régime iranien au cours des semaines passées et notamment la destruction d'un drone américain et beaucoup d'autres choses. Le guide suprême d'Iran est celui qui est finalement responsable de la conduite hostile du régime. Il supervise l'instrument le plus brutal du régime, le corps des gardiens de la révolution. Les sanctions imposées par décret présidentiel vont empêcher le guide suprême et ses proches associés d'avoir accès à des ressources financières clés. Ces mesures représentent une réponse forte et proportionnée aux actions provocatrices de l'Iran. Nous allons continuer d'augmenter la pression sur Téhéran jusqu'à ce que le régime abandonne ses activités dangereuses, notamment la quête d'armes nucléaires, l'enrichissement d'uranium, le développement de missiles balistiques ou le soutien aux groupes terroristes qui alimentent des conflits extérieurs et les actes belliqueux qui menacent les États-Unis et ses alliés. L'Iran ne pourra jamais obtenir l'arme nucléaire.
Et ces sanctions ont sans surprise été mal accueillies en Iran. Sevoj Ghazi de RFI fait le point sur les réactions à Téhéran.
Dans une première réaction, le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé dans un tweet que le président Donald Trump avait raison en affirmant que l'armée américaine n'avait rien à faire dans le Golfe Persique. Le départ des forces américaines du Golfe Persique est dans l'intérêt des États-Unis et du monde, a ajouté Mohammad Javad Zarif. Mais il a accusé le groupe B, qui désigne selon lui John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le prince Ben Salman de l'Arabie Saoudite et Sheikh Ben Zayed des Émirats Arabes Unis, de ne pas chercher les intérêts des États-Unis et de vouloir provoquer la guerre contre l'Iran. De son côté, l'ambassadeur d'Iran aux Nations Unies a déclaré que les États-Unis devaient cesser leur guerre économique contre Téhéran, rejetant tout dialogue entre les États-Unis et l'Iran dans le climat actuel. Le président Trump a imposé des sanctions contre le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, et des commandants des gardiens de la révolution. Ainsi, la tension ne cesse de monter entre Téhéran et Washington. Mohammad Javad Zarif, qui sera lui-même mis sur la liste des sanctions, a affirmé lundi matin que l'Iran allait résister aux menaces et aux sanctions américaines. Sevoj Ghazi, Téhéran RFI.
Le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies souhaite que les milliers de membres des familles des anciens combattants de l'État islamique soient rapatriés dans leur pays d'origine. L'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, qui est à la tête de cet organisme onusien, assure que plus de 55 000 combattants de l'État islamique et leurs familles originaires de plus de 50 pays différents ont été emprisonnés en Irak et en Syrie. Et elle appelle les pays d'origine de ces personnes à prendre leurs responsabilités dans le respect du droit international et donc à ne pas faire de ces gens des apatrides, une solution qui n'est selon elle jamais acceptable.
The measures taken by some states of origin to strip individuals of their nationality in order to prevent their return run the risk of exactly that result. Children who are stateless are often deprived of education, access to health care and other basic elements of dignity. To inflict statelessness on children who have already suffered so much is an act of irresponsible cruelty.
Et toujours sur le même sujet, on a appris hier que les 8 enfants de 2 combattants de l'État islamique qui ont été tués en combat avaient été exfiltrés de Syrie sans qu'on sache où ils ont été emmenés avant leur rapatriement prévu plus tard en Australie. Et plus tôt ce mois-ci, des groupes d'enfants français ont été renvoyés en France, tout comme 3 adultes qui, eux, en revanche, ont été immédiatement placés en détention pour être interrogés. Accident spectaculaire en Allemagne où 2 avions de combat Eurofighter sont entrés en collision alors qu'ils volaient dans le nord-est du pays. Un pilote est mort, l'autre a survécu, il a réussi à s'éjecter de son cockpit, à déclencher son parachute et à toucher la terre ferme en toute sécurité. Le pilote décédé aurait pourtant lui aussi déclenché son parachute d'après un 3e pilote qui a assisté à la collision. Les 2 avions avaient décollé 20 minutes plus tôt de la base aérienne de La Hague, selon Ursula von der Leyen, qui est la ministre allemande de la Défense. Alors les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues, c'est néanmoins un jour très triste pour l'Allemagne, selon la ministre. On l'écoute.
Es war für einige Zeit unklar.
It was unclear for some time what happened to the pilots. One balances between horror and hope. Unfortunately, the hope for one of our pilots was not fulfilled, and he died. Thank God that the second pilot was saved.
Retour en Australie, des dirigeants religieux de toutes confessions confondues appellent solennellement le Premier ministre Scott Morrison à agir contre le réchauffement climatique. Plus de 150 dirigeants religieux, parmi lesquels ceux de la Uniting Church in Australia, la Fédération des conseils bouddhistes d'Australie, les musulmans d'Australie et le Conseil national des églises, ont adressé une lettre ouverte à Scott Morrison pour lui demander de faire du changement climatique sa priorité numéro 1. Réunis sous la bannière « Réponse religieuse australienne au changement climatique », ce groupe demande l'arrêt de tout nouveau projet d'extraction du charbon ou du gaz, d'abandonner le projet de mine de charbon porté par Adani dans le Queensland et de s'engager pour atteindre 100% d'énergie renouvelable en 2030. Le groupe estime que malgré leurs différences confessionnelles, le réchauffement climatique est, je cite, « un défi moral partagé ». Environnement toujours, la ville de Sydney a formellement déclaré une urgence climatique. C'était lundi soir au conseil municipal. Une motion présentée par le maire Clover Moore a été votée. Et selon cette motion, le changement climatique présente un risque sérieux pour les habitants de Sydney, qu'on appelle les Sydneysiders. Cette motion appelle également le gouvernement fédéral à répondre rapidement à cette urgence en réintroduisant une taxe sur le carbone et en créant un organisme chargé d'aider ceux qui travaillent dans le secteur des énergies fossiles à se reconvertir dans un autre domaine plus durable. Et un mot rapide maintenant sur le joueur de rugby, ou plutôt l'ex-joueur de rugby Israël Folau, qui, après la fermeture hier de son appel aux dons par la plateforme en ligne GoFundMe, un appel aux dons qu'il avait lancé pour financer son action en justice destinée à contester son licenciement par la Fédération Nationale de Rugby, une nouvelle page a été créée dans les heures qui ont suivi et elle aurait déjà récolté près de 500 000 dollars, quelques heures seulement après avoir été lancé par le lobby chrétien australien. Pour être plus précis, à 10h ce mardi, la page avait déjà récolté 440 000 dollars et le lobby chrétien australien qui a donc lancé cette nouvelle page a pour sa part promis de verser 100 000 dollars supplémentaires. Israël Folau essaie de récolter au total 3 millions de dollars auprès de ses supporters, une somme qui est donc destinée à financer son recours en justice contre Rugby Australia, qui au mois de mai a mis fin à son contrat d'un montant de 4 millions de dollars annuels. Et cette sanction, elle était intervenue en fait après que l'ancien joueur des Wallabies ait posté sur les réseaux sociaux un passage de la Bible selon lequel les ivrognes, les menteurs, les voleurs, les athées et les homosexuels iraient en enfer, à moins qu'ils ne se repentent. Et puis pour clore cette page australienne, on s'intéresse à l'association de défense des consommateurs Choice qui réclame une révision complète du système d'évaluation des produits alimentaires qu'on appelle le Health Star Rating, car selon Choice, les consommateurs n'ont pas une vision complète ni très précise de ces produits, notamment en ce qui concerne les sucres ajoutés. Choice a ainsi pris l'exemple de certaines marques très populaires de céréales qui actuellement bénéficient d'une note de 4 voire 5 étoiles qui est le maximum. Mais elle a montré que si on prend en compte ces fameux sucres ajoutés, la note en fait tombe alors à 1,5 étoile, qui est vraiment pas un score très élevé. Choice demande donc de revoir entièrement le système de notation et aussi de le rendre obligatoire pour l'ensemble des aliments, mais aussi pour les boissons. Et si le système actuel est faussé, selon Linda Przudetski, qui est experte alimentaire chez Choice, c'est parce que l'algorithme actuel qui évalue les produits et les notes ne sait pas faire la différence entre les sucres ajoutés qu'on trouve par exemple dans les céréales et les sucres naturels, qui se trouvent dans les fruits et les produits laitiers. Direction maintenant la France, où le Premier ministre Édouard Philippe a rencontré lundi au Havre, la ville dont il était maire avant de devenir le chef du gouvernement, son homologue russe Dmitri Medvedev. L'idée de cette rencontre, c'est d'améliorer les relations entre la France et la Russie, qui sont assez tendues depuis l'annexion par Moscou de la Crimée. On écoute le reportage de Julien Chavanne pour RFI.
Le thermomètre n'affichait qu'une petite vingtaine de degrés sous la pluie, mais Édouard Philippe et Dmitri Medvedev ont quand même tombé la veste. Si on est encore loin de la canicule, les deux hommes en bras de chemise ont voulu montrer que la température remontait entre Paris et Moscou. Ouais, visite de la bibliothèque Neumeyer, de la capitainerie, du musée d'art moderne, Édouard Philippe joue le guide touristique pour se rapprocher de son homologue. L'objectif était d'ouvrir un nouvel espace de discussion entre les deux pays.
Le président de la République Emmanuel Macron a considéré que la qualité du dialogue gagnerait si nous pouvions créer de nouveaux espaces de dialogue.
Un nouveau format, car les canaux existants sont gelés par les sanctions des Occidentaux. Du jamais vu, même pendant la guerre froide, regrette Dmitri Medvedev.
Ce n'est pas pour rien qu'on dit aujourd'hui que la situation dans le monde est parfois pire que pendant la guerre froide. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il n'y a pas de communication. Quand il n'y a pas de communication, il n'y a pas de confiance. Et sans confiance, impossible de résoudre nos problèmes.
La Syrie, l'Iran, l'Ukraine, les Français emprisonnés en Russie, les sujets difficiles ont été abordés mais sans aboutir à des avancées. L'essentiel était de préserver le contact. Dmitri Medvedev a d'ailleurs invité Édouard Philippe à venir visiter Saint-Pétersbourg. Julien Chavanne, Le Havre, RFI.
Et on reste en France où le thermomètre va monter haut. Très haut cette semaine, avec des pics à plus de 40 degrés, c'est extrêmement rare pour le mois de juin. Alors ces derniers jours, il y a eu une vraie razzia dans les magasins sur les ventilateurs, mais décidément, cette chaleur à laquelle les Français ne sont pas aussi habitués que les Australiens est vraiment insupportable, à tel point que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé le report des épreuves du brevet des collèges. On l'écoute.
Au regard aussi de l'intensité de la canicule et en accord avec le Premier ministre et en lien avec le ministre de la Santé, j'ai pris donc la décision de reporter les épreuves écrites du diplôme national du brevet. Elles devaient avoir lieu normalement jeudi 27 et vendredi 28 juin. Elles auront lieu le lundi 1er et le mardi 2 juillet, date normalement à laquelle l'épisode caniculaire aura pris fin puisqu'il devrait prendre fin pendant le week-end. Ce report vaut pour la France hexagonale, il ne vaut pas pour l'outre-mer où l'ensemble des circonstances de passation du brevet reste évidemment inchangé. Les convocations vont être rééditées par les services des examens dès demain. Rien ne change sur ces convocations, sinon la date, le lieu et l'ordre des épreuves restent le même.
Et puis cet épisode de forte chaleur rappelle de très mauvais souvenirs en France, celui de la canicule de 2003 au cours de laquelle plus de 15 000 personnes sont mortes, essentiellement des personnes âgées. Mais les leçons ont depuis été retenues et cette fois la France y est mieux préparée, assure la ministre de la Santé Agnès Buzyn.
L'été 2003, personne ne savait ce qu'était une canicule et ses conséquences. Depuis, énormément de progrès ont été faits. J'ai d'ailleurs la semaine dernière organisé la réunion de préparation à la canicule avec tous les ministères concernés, avant même de savoir que cette semaine serait si chaude. Donc tout est prêt, à la fois dans les EHPAD, dans les hôpitaux, dans les transports. La Direction Générale du Travail envoie des consignes. Le ministère des Sports déplace les horaires des compétitions. Bref, tout est organisé. Cela dit, lorsque les gens sont fragiles, même quand ils boivent beaucoup, même quand tout est organisé, il y a toujours un surplus de mortalité. C'était le cas l'été dernier, même si ça a été très très loin de ce que nous avions connu en 2003.
On fait maintenant un point rapide sur la météo de ce mardi en Australie. Des nuages à Perth où il fait 21 degrés, 16 degrés à Adélaïde et pareil à Melbourne, 13 degrés à Hobart, 15 degrés à Canberra. Il y a des averses à Wollongong où il fait 17 degrés. Il pleut aussi à Sydney 18 degrés, tout comme à Newcastle avec 19 degrés. Des averses aussi à Brisbane, mais il fait un peu plus chaud, 21 degrés. Des nuages au-dessus de Cairns avec 26 degrés et il y a du soleil à Darwin, où il fait 30 degrés.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.